VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 13 juin 2016, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Tout d'abord les titres.
L'Amérique toujours sous le choc après le massacre d'hier dans une boîte de nuit fréquentée par des homosexuels à Orlando, en Floride.
Ailleurs dans le monde, un affrontement intercommunautaire au Mali entre groupes armés dans la région de Tombouctou a fait 8 morts.
Au Tchad, le syndicat des magistrats appelle à une cessation de travail à partir d'aujourd'hui dans toutes les juridictions du pays.
L'Érythrée accuse l'Éthiopie de l'avoir attaquée à la frontière commune.
Le vice-prince héritier d'Arabie Saoudite, attendu ici à Washington pour des entretiens sur les relations bilatérales avec les États-Unis.
Et ne manquez pas le journal de l'Euro 2016 ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
Le président Barack Obama a ordonné la mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments fédéraux en mémoire des victimes de la pire fusillade de l'histoire des États-Unis qui a fait 50 morts et 53 blessés dimanche à Orlando, en Floride. Une autre attaque a été évitée de justesse le même jour en Californie. Des détails avec Timothée Donangmaï.
Dans un bref discours dimanche à la Maison-Blanche, le chef de l'exécutif américain a qualifié l'attaque d'Orlando d'acte de terrorisme et de haine. Le FBI, la police fédérale, est en charge de l'enquête et ne ménagera aucun effort pour faire la lumière sur cette tragédie, a-t-il déclaré. C'était la 15e fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche qu'il s'adressait aux Américains après une fusillade meurtrière. L'auteur de la tuerie d'Orlando, Omar Sadiki Martin, est un Américain d'origine afghane de 29 ans, natif de New York. Ces meurtres ont uni les Américains dans la douleur et la colère, a dit le président Obama. C'est un triste rappel qu'une attaque contre tout Américain, indépendamment de la race, de l'origine ethnique, de la religion ou de l'orientation sexuelle, est une attaque contre nous tous et contre les valeurs fondamentales d'égalité et de dignité qui nous définissent en tant que pays. La fusillade d'Orlando visait des clients d'une boîte de nuit fréquentée par des homosexuels. Une autre attaque visant des homosexuels a été évitée dimanche à Los Angeles, où un homme lourdement armé a été arrêté. Originaire de l'État de l'Indiana, le suspect, James Howell, a déclaré lors de son interpellation qu'il voulait, je cite, « causer des dégâts durant la Gay Pride, le grand rendez-vous gay de Los Angeles ».
L'auteur du carnage d'Orlando, l'Américain Omar Sadiki Martin, qui a été tué par la police, est soupçonné de liens avec les djihadistes. Il avait déjà fait l'objet d'enquêtes du FBI. La police fédérale, qui enquête pour terrorisme, le soupçonne fortement d'avoir prêté allégeance au groupe État islamique. Dans un appel passé au service d'urgence 911, quelques instants avant le massacre.
Le FBI a révélé avoir interrogé Omar Sadiki Martin ces dernières années pour ses présumées sympathies islamistes, mais que ses enquêtes n'avaient jamais donné suite. Reste que, selon une agence de presse liée aux djihadistes, c'est bien un combattant du groupe État islamique qui est l'auteur de ce massacre dans un club d'Orlando, le Pulse, établissement emblématique de la communauté homosexuelle en Floride.
Là où le président Barack Obama a condamné un acte de terreur et de haine, le candidat républicain à la Maison-Blanche, Donald Trump, n'a pas hésité à tenter d'exploiter politiquement l'attentat en pleine campagne présidentielle. Il a réitéré sa promesse d'interdire l'accès aux États-Unis pour les musulmans. Si nous ne devenons pas très rapidement durs et intelligents, nous n'aurons bientôt plus de pays, a-t-il averti.
Sa rivale démocrate Hillary Clinton a dénoncé un acte tragique et a reporté un meeting de campagne prévu mercredi avec le président Obama. Du côté des musulmans américains, qui comptent pour 1% de la population, le fondateur de leur principale association, Nihad Awad, a condamné un crime haineux. Il a dénoncé l'attentat dans les termes les plus forts. « Il viole nos principes en tant qu'Américains et que musulmans », a-t-il dit.
Le père du tireur, Mir Sadiki, a lui assuré à la chaîne NBC que le massacre n'avait rien à voir avec la religion, mais qu'il s'agissait plutôt d'un coup de sang dirigé contre la communauté homosexuelle. Nous étions dans le centre-ville de Miami et il a vu deux hommes qui s'embrassaient devant les yeux de sa femme et son enfant et il est devenu très énervé, a ajouté le père, se disant choqué comme tout le pays.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Érythrée a accusé lundi l'Éthiopie, à laquelle l'a opposé un conflit meurtrier entre 1998 et 2000, d'une attaque à sa frontière. Mais Addis Abeba a affirmé ne pas avoir eu connaissance de ces combats. Les deux pays demeurent ennemis et leurs forces se surveillent de près le long de la frontière lourdement fortifiée. Ils s'accusent mutuellement depuis longtemps d'attaques et de soutien à des rebelles dans chaque pays.
Au Mali, un affrontement intercommunautaire entre groupes armés dans la région de Tombouctou a fait 8 morts du côté des Peuls, 9 capturés et des motos et véhicules saisis. Les incidents se sont produits dans le cercle de Gourma House. Au même moment, un chef de village a été enlevé dans la région de Gao par des combattants qui se réclament de la plateforme, un groupe armé pro-Bamako. Le point avec Kassim Traoré.
Malgré le mois de Ramadan, qui devrait être une période plus calme, rien n'a changé sur le terrain au nord du Mali. Dans le cercle de Gourmararous, précisément dans le secteur de Inajatafane, des affrontements entre Peuls armés et les Gatcha ont eu lieu à Tinahabou, entre Boni et Ndaki, dans la nuit du 11 au 12 juin 2016. Le bilan côté Peuls est de 8 morts. 9 personnes ont été capturées, dont Abdraman Diallo est notable. 3 véhicules, 4 motos et des armes ont été saisi par les Gatcha. Ce site est situé dans la commune de Bambara Waoudé, à 90 km au sud-est de la même localité. Ces affrontements entre groupes armés font suite à des querelles de leadership autour des sites de cantonnement. La plupart des affrontements se passent entre les Gatcha et les fractions de la Compis 15, une sorte de dissidence de la plateforme. Au lendemain de cet affrontement, la journée du samedi a été marquée par l'enlèvement du chef de village de Boulkessi par des éléments qui se réclament d'un mouvement de la plateforme Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, renforcement des mesures de sécurité à Ouagadougou, selon un communiqué du chargé de communication de l'état-major des armées burkinabées. C'est ainsi que la circulation autour de la base aérienne et de l'immeuble abritant l'état-major des armées est désormais interdite à partir de 22h.
Au Tchad, grogne au sein de la justice. Le syndicat des magistrats appelle ses militants à cesser le travail à partir de ce lundi 13 juin dans toutes les juridictions du pays. Une cessation de travail d'avertissement pendant 4 jours renouvelable. Le point avec André Kotmajingar.
Ce débrayage intervient après plusieurs sorties médiatiques du syndicat des magistrats du Tchad dénonçant l'agression récursive et l'impunité commise contre les magistrats. Pour mieux se faire entendre, ils ont décidé de cesser avec les activités dans toutes les juridictions du pays à partir de ce lundi pour exiger la mise à la disposition de la justice de l'agresseur de leur confrère Mahamat Tahir Moussa, juge de paix de Bagassola dans la région du lac. Ali Abdoulaye Ibrahim est le président du syndicat des magistrats du Tchad.
Il est inconcevable que nous rendons justice aux autres et nous ne nous pourrions pas avoir de justice. Imaginez, à moins de 2 ans, nous avons comptabilisé 10 agressions. Seulement 4 avaient abouti à des décisions. Mais où on va?
Rappelons que Mahamat Tahir Moussa, juge de paix de Bagassola, a été agressé le 25 février 2016 en plein exercice par l'un des chefs militaires bien connus. Son tort, c'est d'avoir pris la décision de transférer les prisonniers de sa localité à la maison d'arrêt de Bol, chef-lieu de la région du lac, pour des mesures de sécurité. André Kodumadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
A signaler enfin que le vice-prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman, arrive aujourd'hui aux États-Unis pour une visite officielle axée sur les relations bilatérales et la conjoncture régionale, a annoncé l'agence officielle SPA. Cette visite de l'homme fort du royaume intervient sur fond de tension dans les relations entre Washington et Riyad, mise à mal notamment par l'amorce d'un dégel entre les États-Unis et l'Iran, le rival chiite de l'Arabie Saoudite sunnite dans la région du Moyen-Orient.
On passe à présent au journal de l'Euro 2016, présenté par Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Le champion du monde allemand n'a pas tremblé pour son entrée dans la compétition.
Oui, victoire 2-0 de la Mannschaft face à l'Ukraine dans le groupe C. À Lille, l'Allemagne a contenu et battu une équipe d'Ukraine plutôt séduisante. Il lui a fallu moins de 20 minutes de jeu pour ouvrir le score par Mustafi de la tête à la 19e minute. Sur un contre en toute fin de match, Ozil a servi le revenant Schweinsteiger pour le deuxième but de la Mannschaft. Le joueur de Manchester United, 116 sélections, n'avait plus marqué en équipe nationale depuis près de 2 ans. Entre-temps, Piatov avait évité le pire aux Ukrainiens. Triple championne d'Europe, championne du monde en titre, l'Allemagne s'est rassurée même si sa défense a connu quelques ratés.
Dans l'autre rencontre du groupe C,
oui, la Pologne a battu l'Irlande du Nord 1-0. Grâce à un but de Milik, les Polonais l'emportent. Jusqu'ici, la Pologne n'avait jamais gagné dans un euro. Un peu plus tôt, dans le groupe D, la Turquie a chuté d'entrée 1-0 face à la Croatie. Modic, l'unique buteur de cette rencontre. Fatih Terim, le sélectionneur turc qui s'est excusé après la défaite de son équipe. Et puis ce lundi, le champion d'Europe en titre, l'Espagne, qui débute son tournoi face à la République tchèque.
Dans le groupe E, la Suède de Zlatan Ibrahimovic affronte l'Irlande.
Et puis le choc de ce groupe E, c'est l'Italie face à la Belgique. Ce sera à Lyon, coup d'envoi, 19h, temps universel. Les détails avec le correspondant de VOA Afrique en France, Christian Mpanzou.
Belgique-Italie, c'est un match qu'on aurait pu vivre en quart ou en demi-finale de 7 euros, mais le tirage au sort en a voulu autrement. Ces deux formations promises à un joli parcours se retrouvent dès l'entame de la compétition, au Stade des Lumières à Lyon. On aura droit à une véritable opposition de style. D'un côté, la génération dorée de la Belgique et son secteur offensif attrayant. Malgré plusieurs forfaits de taille, les Belges présentent une équipe qui a tous les ingrédients pour aller loin. La sélection de Marc Wilmots est même parmi les équipes les plus plébiscitées pour remporter l'Euro. En l'absence de Vincent Kompany blessé, Eden Hazard portera le brassard de capitaine et sera aussi le principal animateur de l'attaque des Diables Rouges. Face à eux, l'expérience de l'équipe d'Italie, finaliste il y a 4 ans. Le groupe concocté par Antonio Conte est plutôt homogène. Ses atouts sont bien sûr le capitaine et gardien de but Gianluigi Buffon, 38 ans et toujours aussi efficace. Une défense coriace dans la plus pure tradition italienne. Reste à voir si le talent de la Belgique pourra semer le trouble chez la squadra azzurra. Depuis Paris, Christian Mpanzou pour VOA Afrique.
Le hooliganisme est aussi pris au sérieux dans cette compétition et l'UEFA menace d'exclusion l'Angleterre et la Russie.
Oui, Idrissa, l'UEFA a adressé un avertissement aux deux pays en cas de nouvelles violences comme à Marseille. L'instance européenne pourrait exclure les deux pays de la compétition. On se souvient que samedi, des bagarres sont intervenues dans le stade Vélodrome entre supporters russes et anglais en marge de cette rencontre qui avait vu les deux équipes faire match nul, 1-0.
Merci pour ce journal de l'Euro. En bref, la Copa América et la nouvelle gifle infligée aux Haïtiens.
Et défaite 4-0 pour Haïti, corrigée par l'Équateur.
Et dans l'autre rencontre de la nuit, le Brésil a été éliminé dès la phase de poule de la Copa América 2016 après sa défaite surprise face au Pérou. 1-0 dimanche à Foxborough dans le Massachusetts. Le Brésil s'est incliné sur un but marqué de la main par Paul Ruiz Diaz et a terminé à la 3e place du groupe A avec 4 points. Enfin, Nicolas, la CAN 2017, les éliminatoires.
Oui, un match en retard avec la victoire du Bénin 2-1 contre la Guinée équatoriale. Résumé de cette rencontre sur place avec Élisée Oumpati.
C'est sous une forte pluie que le Bénin s'est relancé pour la qualification à la CAN 2017. Les écureuils ont défait le Nzalang national de la Guinée équatoriale 2-1. Des réalisations de Khaled Adenon et David Digla côté béninois et Zaradona pour les équato guinéens. Un bon résultat pour le capitaine des écureuils, Stéphane Sesseyon.
Vous savez, ça n'a pas été une semaine facile. Bah, la préparation a été difficile, mais mentalement, on a essayé de se préparer pour ce match. On s'attendait aussi à un match difficile, il faut le dire. On savait que cette équipe équato guinéenne avait de la qualité. En plus, on jouait sur une pelouse difficile à manœuvrer. Et donc, nous, on s'attendait à un match difficile. Mais bon, l'essentiel, c'était la victoire. C'est ce qu'il faut retenir. Ça montre qu'il y a de la volonté, il y a un gros état d'esprit dans l'équipe. Et c'est bien pour la suite parce que je pense qu'on a la chance de pouvoir aller à la CAN. Donc, on va continuer à travailler.
Le Bénin a désormais 2 points de retard sur le Mali, leader du groupe, en attendant la confrontation des deux équipes lors de la dernière journée. Élisée Koumpati, Cotonou, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'Amérique est sous le choc de la pire fusillade de son histoire, celle qui a fait 50 morts et 53 blessés dimanche à l'aube dans une boîte de nuit d'Orlando en Floride, fréquentée par les homosexuels. Timothée Donangmaï a joint en Floride Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami, dont le fils se trouvait à Orlando au moment de la tragédie.
Mon fils, il était à Orlando depuis vendredi, il a été assisté à un séminaire, un mariage et tout. Et moi, il m'est arrivé à 5 heures du matin, juste pour dire, papa, je veux que tout va bien. Je lui dis, bon, de quoi tu parles? Non, voici ce qui est arrivé. Mais tout à coup, j'étais choqué. Non seulement pour lui, parce que je sais maintenant à Orlando, et les polices sont dehors, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de faire, mais ça peut être mon fils qui était à l'intérieur du club. Essaie de comprendre bien, comme on avait une conversation avant, ne regarde pas que c'est un club de lesbiennes ou de homosexuels. C'est pas ça du tout. Les enfants, ils vont, ils entrent le marché, ils écoutent la musique. Ah bon, c'est une musique, allons regarder. Ils vont à l'intérieur, ils vont danser. Ils ne font pas la distinction parce qu'on les montre de respecter. Parce que lorsqu'on lève un enfant en jeu, il apprend à respecter. C'est très important dans la vie. Donc moi-même, lorsqu'il m'a dit ça, tout à coup, ami, je réveillais tout le monde dans la maison. Et je lui ai dit, écoute, Stéphane va bien.
Le tueur d'Orlando avait été repéré par le FBI, la police fédérale, qui l'a même interrogé, mais ne l'a pas arrêté.
On doit essayer de comprendre quelque chose. Il y a des manches à suivre. Nous, les polices, comme les citoyens, on a des droits et des manches à suivre lorsqu'on fait une investigation. Il arrive qu'il avait tout, les licences et tout comme ça, on peut le suivre de près ou de loin, mais il n'y avait pas de raison pour qu'on prenne les armes ou bien on le met en état d'arrestation parce que les lois n'ont pas permis les FBI de faire ça.
La Floride est une zone touristique et nous sommes en été. Quel est l'impact de cette tragédie dans cet état?
Très difficile parce que les touristes vont dire, mes amis, bon, qu'est-ce qui se passe? Surtout en Orlando encore. Parce que tout le monde autour du monde connaît que pendant les vacances, on va à Orlando. Donc, on va voir dans ces jours à venir comment la police et les dirigeants d'Orlando vont faire face à cette situation.
Comment voyez-vous la réaction des forces de sécurité de la Floride, d'Orlando, face à cette situation?
Non, je veux vous dire maintenant, c'est tout l'État de la Floride qui est en alerte. On va trouver des profiteurs qui vont essayer de faire la même chose. J'ai eu des réunions aujourd'hui avec plusieurs personnes qui sont des chefs de police que je sais. Ils ont mis tous leurs officiers en état d'alerte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut s'arriver. Mais la police n'est pas dans tous les rues. Donc si quelqu'un veut faire quelque chose, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'essayer le mieux qu'on peut avec l'aide de Dieu. Mais je vais vous dire que dès ce matin, je suis dans la rue, les polices sont partout. Mais les citoyens également, si on voit quelque chose qui n'est pas bien placé, vous devez prendre le téléphone pour appeler la police.
Marc Elias, ancien chef de la police de North Miami, en Floride.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Les musulmans du monde observent en ce mois de juin le Ramadan. Ils sont appelés pendant environ 30 jours à jeûner, prier et multiplier les actes de charité. Au Cameroun, les chrétiens et les adeptes des religions traditionnelles africaines se joignent à eux pendant les prières et les repas dans le cadre d'une mobilisation contre l'extrémisme religieux. Nous signale de Yaoundé Moki Edwin Kinzeka.
Environ 500 habitants de Yaoundé sont présents au complexe islamique de Tchinga, parmi eux les chrétiens et les adeptes des religions traditionnelles africaines. Charles Zobo, ancien de l'église catholique à Yaoundé, voit dans cette initiative la promotion de la paix et la cohabitation pacifique entre les différentes religions.
They treat everybody equally because I, for example, I'm a Christian.
Il dit qu'il n'y a pas de discrimination et que les valeurs africaines recommandent le partage avec ses frères et sœurs et de les soutenir en cas de besoin.
We should not discriminate and we pray for a better Cameroon.
Selon Mohamedou Labaran, secrétaire du complexe islamique de Tchinga, c'est une tradition engagée depuis plusieurs années pour promouvoir la cohabitation pacifique entre l'islam et les autres religions.
Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabi wa salam ala amin, Mohamed ibn Abdullah wa ala sahbi ajma'in. Il y a le déjeuner collectif qui se passe ici. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne la nourriture à quelqu'un, il a la même récompense avec la personne. Hein, c'est le message, c'est la paix. Parce que vous savez, nous, le Cameroun, on remercie Dieu, c'est-à-dire on cohabite avec les musulmans, avec les non-musulmans.
Mais tous les musulmans ne partagent pas cet avis. Selon Sanusi Moutar, imam à étudier, le Ramadan est une période sainte. Par conséquent, ils ne peuvent pas accepter d'être ensemble de ceux qui ne respectent pas les commandements de Allah.
On ne peut pas faire une invitation spéciale à quelqu'un qui n'a pas jeûné, vient, on casse le jeûne, comme son nom même l'indique, c'est la nourriture pour la rupture des jeûnes. Voilà, je crois que le mois de jeûne, c'est un mois de soumission, c'est un mois d'adoration. Ce que je leur recommande, c'est que, d'observer davantage les recommandations divines.
Depuis 3 ans, le Cameroun est engagé dans la lutte contre Boko Haram. Plusieurs fidèles musulmans ont été arrêtés pour la propagation des messages de ces groupes terroristes et le pays est en train d'encourager la paix entre les religions. Environ 25% des Camerounais sont musulmans, 40% chrétiens. Et les autres croient aux pratiques traditionnelles africaines. Moki, Edwin Kinzika, VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En République démocratique du Congo, 4 semaines après le lancement de l'opération dénommée Oussalama, sécurité en français, contre les rebelles ougandais des ADF dans le territoire de Beni au nord Kivu, la MONUSCO promet un soutien continu sur le plan logistique. Pour leur part, les forces armées congolaises font état d'un bilan à mi-parcours satisfaisant, signalant une 20aine de rebelles tués. Notre correspondant dans la région, Charlie Kasereka, était avec une délégation onusienne qui s'est rendue sur la ligne de front à Beni.
La moisson est satisfaisante selon les porte-parole de cette opération. L'officier Marc Azoukai nous fait un bilan à mi-parcours d'une 20aine d'ennemis neutralisés.
Satisfaction parce que le résultat est là. Nous avons réussi à neutraliser une 20aine d'éléments intégristes islamistes de l'ADF. Nous avons récupéré quelques armes et aussi nous avons capturé 4 éléments, dont une femme âgée de plus ou moins 75 ans, et il y a eu des rendus. Le travail se poursuit.
Cette reprise de collaboration doit produire encore plus et tous les moyens sont maintenant mis en jeu, a fait savoir dans une interview exclusive à la VOA le général Derek Kengwebi, le chef de la force onusienne en RDC.
We support with the collection of intelligence.
Nous accompagnons cette opération dans la collecte de renseignements, transport de matériel sur la logistique et l'évacuation des blessés par nos hélicoptères. Mais le challenge ici est difficile car ici c'est une guerre asymétrique que nous livre l'ennemi. Et donc l'apport de toutes les forces vives et de la classe politique est la bienvenue.
La population dans la région souhaite voir aussi les acteurs politiques de la RDC faire de même, venir sur place et discuter avec elle sur la question de l'insécurité dans cette région. Gilbert Kambale coordonne l'une des plateformes de la société civile ici à Beni.
Ce que nous attendons, nous, c'est surtout les résultats finaux. La priorité première de la MONUSCO, c'est de protéger les djihadistes. Et pourtant, les djihadistes continuent à être tués. Et donc, il a justement un grand défi. Par les forces commandes, nous voulions quand même rencontrer également le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies.
La rébellion d'islamistes et des ADF qui s'est installée dans cette région de Beni depuis plus de 20 ans a déjà fait plus de 1000 morts, tous des civils, selon la société civile dans cette province de l'Est et de la RDC. Des retours d'Erengeti dans la région de Beni, Charles Kasereka pour VOA Afrique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme ce lundi 13 juin 2016. L'occasion de rappeler les situations dramatiques que vivent certains albinos sur le continent, particulièrement en Afrique de l'Est. Au Malawi, par exemple, après une série d'assassinats d'albinos, la justice a interdit début juin à tous les sorciers et guérisseurs traditionnels d'exercer. Directrice de la Fondation Salif Keïta, Kumba Makalu Keïta, revient sur les menaces qui pèsent sur les personnes atteintes d'albinisme.
La situation en Afrique actuelle en ce qui concerne l'albinisme est très urgente, très grave, car il y a beaucoup de discrimination, persécution et même meurtre. Et dans certaines régions en Afrique de l'Est, on a vu jusqu'à 18 meurtres d'albinos depuis le début de cette année, depuis janvier au Malawi par exemple. Et en Tanzanie et au Burundi, c'est continuel. Et même il y a quelques semaines, on a parlé d'un corps mutilé qui a été trouvé au Mali, au nord du Mali, une personne atteinte d'albinisme. Donc c'est urgent qu'il y ait une mobilisation pour protéger ces personnes vulnérables.
Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus touchés en Afrique de l'Ouest ?
C'est, en Afrique de l'Ouest, ça existe depuis très longtemps, mais ce n'est pas déclaré. Ce sont des choses qui se passent d'une manière secrète, clandestine, et on n'entend pas beaucoup des déclarations de la police ou du gouvernement là-dessus. Mais c'est quelque chose qui se passe. Il y a eu vraiment des victimes qui ont été trouvées au Sénégal. Il y avait l'association des albinos du Sénégal qui avait même porté plainte contre X pour des cadavres d'albinos qui avaient été trouvés avant des élections. Au Mali, on voit différents cas où on trouve parfois des enfants qui ont été mutilés, etc. Mais pour trouver les parents, pour trouver des personnes qui vont aller se déclarer à la police, qui vont se mettre à porter des plaintes contre quelque chose, c'est très, très difficile. Mais en Afrique de l'Est, c'est quelque chose qui s'est manifesté, en Tanzanie surtout. Et il y avait une journaliste, au fait, qui a fait un grand reportage là-dessus, où elle s'est fait passer pour une cliente et aller voir un féticheur, disant qu'elle cherchait une potion magique pour devenir riche, et il lui a dit, écoute, il te faut des parties du corps d'albinos, et elle a pu enregistrer tout ça, et c'est en fait ça qui a déclenché vraiment que les médias soient au courant que c'est une réalité, ce problème, et ces crimes existent.
Pouvez-vous nous parler un petit peu du travail de la Fondation Salif Keïta ?
Oui, la Fondation Salif Keïta existe au Mali, elle existe ici aux États-Unis. Au Mali, c'est pour les soins, c'est aussi pour les conseils. Il y a beaucoup de personnes albinos qui sont atteintes de cancer de la peau, qui n'ont pas de moyens. Donc la Fondation les aide de ce côté-là et aussi pour leur intégration sociale.
Kumba Makalu Keïta, directrice de la Fondation Salif Keïta, répondait aux questions de Claire Morin-Gibourg. La Minute Éco, Nathalie Barge.
La Banque africaine de développement a accordé une ligne de crédit de 150 millions de dollars à United Bank for Africa pour le secteur de l'énergie au Nigeria. Le financement permettra aussi d'intensifier les prêts aux PME et aux femmes entrepreneurs, de créer des emplois et de stimuler les secteurs de la fabrication, la construction, l'agriculture et l'éducation. Par ailleurs, la Banque africaine de développement et le Centre du commerce international organisent mardi et mercredi une table ronde pour présenter les obstacles relatifs aux mesures non tarifaires qui freinent les efforts d'intégration régionale au sein de la CEDEAO. L'objectif est notamment de proposer un plan d'action pour éliminer les obstacles liés aux règlements techniques et aux exigences en matière de conformité et procédures douanières. L'Union européenne et six pays d'Afrique australe ont signé au Botswana un accord de libre-échange décidé en 2014, rapporte Jeune Afrique. Les pays en question sont le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et l'Afrique du Sud. L'accord signé doit maintenant être formellement ratifié par les différentes parties.
VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne-Al Boutson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.